France Culture.
Et d'abord, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie. Bonjour à toutes et à tous. Par espoir ou par devoir, c'est au bout du monde, aux portes de l'Amazonie, que 50 000 personnes sont réunies à partir d'aujourd'hui pour l'ouverture officielle de la nouvelle COP sur le climat. Nous serons sur place. Et puis on parlera aussi de ces millions de réfugiés qui risquent de voir leur situation déjà précaire s'aggraver encore en raison justement du changement climatique. Au lendemain de la démission retentissante de deux des plus hauts responsable de la BBC, on se demandera combien de temps l'institution, longtemps chérie des Britanniques, pourra résister aux attaques des responsables politiques conservateurs. L'actualité en France, c'est tout d'abord l'examen de la demande de remise en liberté de Nicolas Sarkozy sous contrôle judiciaire. Nous serons direct de la Cour d'appel de Paris. Et puis avec notre invité aujourd'hui, on se demandera comment le projet de budget pèse aujourd'hui sur les plus pauvres. Une fâcheuse odeur d'hydrocarbures avait accueilli l'an dernier les délégués à leur arrivée à la conférence climatique de l'ONU à Bakou. Et depuis ce matin, c'est la moiteur tropicale amazonienne que respire cette fois-ci à Belém les quelques 50 000 participants de la nouvelle COP. Véronique Robert-Roth, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial sur place. Une chose en revanche ne change pas, c'est la mission toujours la même, sauver l'action mondiale pour le climat, ou plus exactement d'ailleurs Véronique, empêcher un effondrement de la coopération internationale.
Oui, une fois de plus, mais il y a ici pour l'instant un souffle qu'on avait perdu durant les trois dernières COP, qu'on va qualifier rapidement de déprimante. Il y a l'espoir insufflé par le président Lula du « quand on veut ». On peut, dans l'unité, tous ensemble. Le Brésil a lancé en préambule la semaine dernière un nouveau fonds mondial pour protéger les forêts primaires. C'est du concret. Son message, de toute façon, la transition énergétique mondiale est maintenant tellement enclenchée que tout le monde a y gagné en accélérant ensemble. Lula veut aussi discuter d'une sortie ordonnée, hein, je cite, des énergies fossiles, une vraie feuille de route qui n'existe pas pour l'instant. Cela dit, il y a quelques obstacles à lever et pas des moindres. S'il faut montrer que le multilatéralisme tient bon, le travail de sape de Donald Trump plane au-dessus de cette COP et faire sans le deuxième émetteur mondial de CO2, de gaz à effet de serre, est un peu compliqué. Il y a aussi les priorités budgétaires de chacun. Beaucoup de pays préfèrent en ce moment investir dans le réarmement plutôt que dans la lutte contre le changement climatique. Pourtant, il faut trouver des centaines de milliards pour faire face au dérèglement climatique et pour aider les pays du Sud. Et puis, l'absence de leadership mondial ralentit aussi la dynamique de la diplomatie climatique. On a vu la semaine dernière la difficulté des Européens à se mettre d'accord sur un objectif de réduction de gaz à effet de serre. La Chine, premier émetteur au monde, mais pas émetteur historique, continue aussi de minimiser son implication dans les dérèglements climatiques et reste en retrait. Alors Lula aura des alliés dans son envie de faire de cette COP une COP de l'action. Les peuples autochtones, les communautés locales brésiliennes, les paysans s'enterrent présents à la fois hors de la COP avec leur propre sommet, leur contre-COP, et présent aussi à l'intérieur de l'enceinte officielle, déterminé à faire pression. Ce ne sera pas seulement de la figuration, du folklore, si j'ose dire, comme ça se produit parfois dans d'autres COP. Les peuples de l'Amazonie seront les meilleurs alliés de Lula, avec le risque, à la fin, d'une plus grande frustration encore à la fin de cette COP la semaine prochaine.
Merci Véronique Robert-Roth en direct de Belém, donc ainsi qu'à Olivia Branger pour les moyens techniques. Alors le changement climatique à l'œuvre se vérifie partout sur la planète. Ce matin encore, les Philippines évaluent les dégâts causés après le passage dans la nuit d'un super typhon, et ce quelques jours seulement après qu'un autre ouragan a déjà fait plus de 200 morts. Or on le sait, c'est bien le dérèglement climatique généré par l'activité humaine qui rend tous ces phénomènes météorologiques extrêmes toujours plus fréquents, plus meurtriers, plus destructeurs, et en particulier dans les pays déjà exposés aux guerres. C'est ce qui ressort du dernier rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les précisions depuis Genève du correspondant de RFI pour France Culture, Jérémy Lange.
117 millions, c'est le nombre de personnes qui ont dû fuir les conflits à travers le monde. Parmi elles, les trois quarts ont trouvé refuge dans des endroits exposés aux catastrophes climatiques, comme les ouragans, les inondations ou les sécheresses. Si on prend les 10 dernières années, ces phénomènes extrêmes ont aussi provoqué 250 millions de déplacements internes, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même pays. C'est comme si toute la population du Pakistan avait dû quitter sa maison au moins une fois. Le problème, c'est que ce sont souvent ceux qui accueillent le plus de réfugiés qui sont aussi les plus durement particulièrement frappés par les conséquences du réchauffement. D'après le HCR, les 15 camps de déplacés où il fait le plus chaud aujourd'hui, tous en Afrique, vont devoir affronter des températures caniculaires la majeure partie de l'année d'ici à 2050. Une double peine, aggravée encore par le fait que ces pays sont en général les derniers à recevoir des fonds internationaux pour l'adaptation au réchauffement.
Si les Américains devraient bénéficier d'un probable rapide retour à la normale, celui-ci ne sera que temporaire.
Hier soir, les sénateurs ont trouvé un accord provisoire en vue de mettre fin à la paralysie budgétaire qui, depuis une durée record de 40 jours, bloquait une partie des services publics. Plus exactement, 8 élus démocrates ont fini par céder et unir donc leur voix à celle des républicains en faveur d'un texte prévoyant un financement du gouvernement jusqu'en janvier.
La polémique était devenue trop grave au Royaume-Uni.
Parce qu'il en allait de la crédibilité même du groupe audiovisuel public britannique tout entier, le directeur général de la BBC et la patronne de l'information ont tous deux annoncé leur démission hier soir. En cause, le montage de deux discours distincts de Donald Trump, présentant de manière trompeuse les propos du président américain. Une affaire qui survient en réalité après une série d'autres révélations, et en particulier la diffusion d'un documentaire sur Gaza, jugé là aussi biaisé, et qui avait d'ailleurs valu à la BBC de se voir infliger une sanction par le régulateur des médias. Alors toute cette séquence apparaît bien sûr désastreuse, mais aussi périlleuse pour l'institution dont l'existence même en tant que service public financé par le contribuable est régulièrement sujette à débat. Les précisions de notre correspondante Gaëlle Joly.
Cette décision a été accueillie avec une joie non dissimulée par une grande partie de la droite politique britannique qui réclame depuis des années la privatisation de la BBC. L'ancienne première ministre Liz Truss n'a d'ailleurs pas tardé à retweeter le message triomphant de Donald Trump. Ce raté, écrit-elle, devrait marquer la fin de la radio publique. La chef de l'opposition, Kemi Badenoch, a déploré un catalogue de graves défaillances, alors que Nigel Farage, le chef du parti d'extrême droite Reform UK, a appelé à un changement de fond en comble du groupe public. Le seul à défendre la BBC, le chef de file des démocrates libéraux a appelé le Premier ministre travailliste Keir Starmer et la classe politique en général à protéger la BBC face à Donald Trump et la sphère MAGA. Hier, la ministre de la Culture britannique avait fustigé des décisions éditoriales pas toujours bien réfléchies et loin d'être à la hauteur des plus hautes exigences. Une polémique qui tombe d'autant plus mal que le groupe audiovisuel doit renégocier d'ici fin 2027 son nouveau contrat de mission avec le gouvernement.
Déclaré coupable d'association de malfaiteurs, condamné à 5 ans d'emprisonnement et incarcéré depuis 3 semaines, Nicolas Sarkozy va-t-il finalement sortir de prison ? C'est aujourd'hui que la Cour d'appel de Paris examine sa demande de libération. Sa décision devrait être rendue d'ici une heure. Florence Thurm, bonjour.
Bonjour.
Vous avez assisté à l'audience ce matin de Nicolas Sarkozy, l'ex-président qui comparaissait en visio depuis la prison de la Santé à Paris.
Oui, et ce serait une grande surprise, on peut déjà le dire, si la Cour ne prononçait pas la remise en liberté de Nicolas Sarkozy. L'avocat général l'a lui-même requise sous contrôle judiciaire en rappelant qu'il s'agissait de la demande d'un prévenu qui bénéficie de la présomption d'innocence et pas d'un condamné. Le procès en appel est prévu à compter de mars prochain. Les garanties de représentation sont indéniables, rarement réunies à un tel niveau, poursuit le représentant du parquet. Christophe Ingrin, l'avocat de Nicolas Sarkozy, les a listés avant lui. D'après la loi, la détention doit constituer l'unique moyen de conserver des preuves, empêcher des pressions, des concertations, de prévenir une fuite ou une récidive, ou encore de protéger le prévenu. Pour lui, c'est la détention qui constitue une menace, pas le contraire, insiste l'avocat, ce qui a justifié d'ailleurs son isolement et la protection policière dont il a fait l'objet. Sur l'écran de la visioconférence, assis derrière une grande table avec deux autres de ses avocats, Nicolas Sarkozy, en veste bleu foncé, écoute, visage fermé, livre des réponses concises aux questions du président sur ses revenus, ses possibles déplacements à l'étranger. Il le sait, ce n'est pas le lieu de plaider le fond du dossier, mais il répète son innocence. Jamais je n'avouerai quelque chose que je n'ai pas fait. Je me bats pour que la vérité triomphe. Je n'avais pas imaginé attendre 70 ans pour connaître la prison, ajoute Nicolas Sarkozy. Cette épreuve m'a été imposée, je l'ai vécue, elle m'a fait souffrir, beaucoup souffrir. Je respecterai toutes les obligations, car je suis fait ainsi. Ces derniers mots en hommage au personnel pénitentiaire d'une humanité exceptionnelle qui a rendu, conclut-il, ce cauchemar supportable.
Merci Florence Sturm en direct de la Cour d'appel de Paris avec Michael Simon pour les moyens techniques.
Il refuse d'être un bouc émissaire.
Celui qui a battu le record de longévité au poste de grand argentier, Bruno Le Maire, avait plaidé dès 2024 auprès du chef de l'État pour des mesures urgentes qui permettraient un redressement des comptes publics. C'est ce que révèle une note secrète jamais publiée, dévoilée en exclusivité hier soir dans l'émission C'est dans l'air. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Évidemment, cette révélation intervient dans un contexte explosif en plein débat budgétaire. On va y revenir dans un instant. Et surtout, elle tente à rejeter sur Emmanuel Macron la responsabilité du dérapage des comptes publics.
Oui, Emmanuel Macron avec lequel Bruno Le Maire prend aujourd'hui ses distances. Dès le début de l'interview accordée hier soir à Caroline Roux dans l'émission C'est dans l'air, il se déclare
totalement libre de ma parole publique et c'est exactement la situation dans laquelle je voulais être.
Il reconnaît par ailleurs une part de responsabilité dans la dégradation de la dette publique qui s'est creusée de 1144 milliards d'euros depuis 2017.
Je prends toute ma responsabilité. C'est notre échec, la dette.
Il estime toutefois que sa responsabilité à lui, Bruno Le Maire, est limitée, car il a, dit-il, alerté dès le départ, dès que la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a commencé à refluer.
Depuis 2021, je dis nous sommes à l'euro près, il faut sortir du quoi qu'il en coûte. Je présente des projets d'économie, budget après budget. Je n'ai jamais menti aux Français. Je suis toujours celui qui leur a dit la vérité sur la nécessité de rétablir les comptes.
Et puis il y a eu cette lettre envoyée au président de la République le 6 avril 2024, lettre dans laquelle il écrit « La dégradation de la dette de la France risque d'exploser à la face du gouvernement. On nous accusera d'insincérité », écrit-il encore, et il demande à Emmanuel Macron une loi pour corriger le budget.
Il fallait une loi de finances rectificative.
Vous écrivez au chef de l'État.
J'écris parce que c'est la manière la plus solennelle d'alerter et d'obtenir une décision pour le rétablissement des comptes publics. Ça a été refusé.
À ce moment-là, on avait commencé à redresser les comptes, affirme Bruno Le Maire, puis est intervenue la dissolution de l'Assemblée nationale.
Le dérapage, il intervient après la dissolution. Le vrai dérapage, il intervient après la dissolution.
Or, après la dissolution, Bruno Le Maire avait quitté le ministère des Finances et il ne veut plus aujourd'hui être pointé du doigt comme étant le principal responsable de la dégradation des comptes publics. Celui qui a fait les choix, dit-il, celui qui a pris les décisions, c'est le président de la République, Emmanuel Macron.
Merci Stéphane Robert.
L'Assemblée ira-t-elle au bout du budget de la Sécu ?
Les débats se sont interrompus hier soir. Ils reprendront mercredi pour une ultime journée, en commençant notamment par la suspension de la réforme des retraites. Sauf qu'avec des centaines d'amendements encore à étudier, parvenir à un vote dans les délais impartis semble désormais extrêmement difficile. Sans compter que samedi dernier, déjà, les députés ont adopté sur le fil la partie recette, d'ailleurs largement réécrite, ce qui laisse présager une équation encore plus difficile en cas de vote sur l'ensemble du budget. Quoi qu'il en soit, cette partie dépenses du budget contient, on l'a dit, l'article phare suspendant donc la réforme des retraites, mais pas seulement. On y trouve de nombreux dossiers extrêmement sensibles sur le doublement des franchises médicales, le gel des pensions de retraite et le gel des minima sociaux. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Catherine Laumont, secrétaire nationale de la CFDT Protection Sociale Travail Emploi. Bonjour madame.
Bonjour.
La semaine dernière, une mesure en particulier, et surtout une petite phrase du ministre du Travail ont suffi à jeter un éclairage assez froid sur ces restrictions donc imposées aux plus pauvres dans le projet de budget, en parlant de la proposition de supprimer la prime de Noël aux allocataires du RSA sans enfants. Le ministre Jean-Pierre Farandou a estimé qu'elle relevait, je cite, d'une politique de générosité maximale dont nous n'aurions plus les moyens aujourd'hui. Samedi dernier, finalement, il s'est dit ouvert à revenir sur cette compensation, cette suppression, à la condition de trouver plutôt une autre recette en compensation. Comment est-ce que vous avez compris donc ces propos sur la générosité supposée de l'État français ?
Alors, c'est une politique liée au PLF qui se met en place et on voit qu'il est terrible sur les plus précaires, à la fois pour les demandeurs d'emploi, pour les salariés que je représente de France Travail, puisqu'il y a 515 postes en moins qui sont prévus dans le budget 2026. Et puis, la réduction des accompagnements, notamment vers la jeunesse. Pour exemple, à France Travail, on a 5000 contrats d'engagement jeunes en moins dans le budget qui est prévu. C'est aussi le cas sur les missions locales, avec une réduction, ce qui fait déjà 16 000 jeunes de moins de 25 ans qui ne seront pas accompagnés. En parallèle, des mesures drastiques pour les allocataires du RSA, tout ça fait que le budget, on voit qu'il n'est pas très généreux, voire même drastique pour les plus précaires.
tout ça est représentatif de ces questions liées donc à la grande pauvreté en général, abordées telles qu'elles sont abordées en tout cas par le gouvernement?
Ah ben, ce budget, il instille carrément une grande pauvreté, enfin la pauvreté à grande échelle, à savoir que on a maintenant tous les allocataires du RSA qui ont obligation d'être inscrits à France Travail, et des radiations qui vont se faire jour, et puis des sanctions mises par les conseils départementaux qui vont jusqu'à 80% sur un RSA. Je rappelle qu'un RSA, c'est 646 euros, avec 80% de sanctions. C'est terrible. Les droits et devoirs que sont l'assurance chômage, cette fois, sont carrément renforcés et les sanctions tombent.
Depuis cette année, le déploiement de la loi dite plein emploi suspend le versement, vous l'avez rappelé, donc du RSA à la signature d'un contrat d'engagement entre donc France Travail et puis ses allocataires. D'où parfois le malaise des conseillers chez vous à France Travail qui ont le sentiment de voir leur métier basculer de l'accompagnement au contrôle des personnes auprès desquelles elles travaillent. Est-ce que là encore, on peut y voir une transformation plus profonde de la façon dont sont envisagées aujourd'hui, de manière générale, les questions de lutte contre la pauvreté par les politiques publiques?
Oui, parce que sortir des gens d'un système en les contraignant, parce qu'ils ne pourront pas forcément tous retrouver une activité, retrouver un emploi comme c'est spécifié dans le contrat d'engagement. Et puis, à la fois, on n'a pas les moyens d'accompagner 1,2 million d'allocataires qu'on a inscrits depuis fin mai et depuis la loi plein emploi. Donc, c'est quand même de l'industrialisation du flicage, je vais être assez claire comme ça. Et puis, on avait nos missions pérennes qui sont vraiment l'accompagnement. Et ce que veulent les conseillers, c'est de pouvoir faire leur métier. Il y a des belles histoires à France Travail quand on arrive à voilà, accompagner quelqu'un vers l'emploi, à faire de la mise en relation avec les entreprises. Et tout ça fait que on n'aura plus les moyens, on aura les moyens de la sanction. Et en tout cas, c'est ce qui est priorisé dans ces nouvelles règles.
Vous avez évoqué, et à juste titre, les conséquences donc, de ces coupes budgétaires pour les personnes concernées. Est-ce que les économies qui sont faites sur la lutte donc, contre la pauvreté ne risquent pas d'entraîner à terme aussi des coûts supplémentaires pour l'État ?
Évidemment que indirectement, au-delà de l'affichage, quand on va finir par radier des gens qui seront plus dans les effectifs France Travail, ils seront quand même en détresse encore plus forte. Évidemment que ça génère des problèmes de santé, de logement. Et puis, ça génère aussi ce sentiment de déclassement qui est déjà très fort pour beaucoup, qui se sentent abandonnés, qui ont des contraintes. Et au bout du bout, on est même sur un risque encore plus fort démocratique par rapport aux extrêmes, en se disant c'est toujours les mêmes qui ont tout et les autres qui ont rien. Et nous, on nous abandonne et on nous contraint.
Et on terminera sur ces mots. Merci Catherine Laumont, donc secrétaire nationale de la CFDT Protection Sociale Travail Emploi, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Loïs Guérin pour la préparation. La nouvelle ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, est arrivée hier en Nouvelle-Calédonie. Un déplacement de 4 jours. Elle entend renouer le dialogue politique, mais sera aussi confrontée aux difficultés économiques de l'archipel, plongée dans une crise sans précédent depuis les violences de 2024 qui ont fait des milliards d'euros de dégâts et détruit des milliers d'emplois.
Depuis un peu plus d'une heure maintenant, les femmes travailleront gratuitement jusqu'à la fin de l'année.
Oui, comme chaque année, la lettre d'information féministe, Les Glorieuses, a calculé ce moment précis. C'était donc ce lundi à 11h31, une date évidemment symbolique, mais calculée à l'aide des données bien réelles, cette fois-ci fournies par l'INSEE, selon lesquelles les femmes gagnent en moyenne 14,2% de moins que les hommes. Les explications d'Annabelle Grelier.
Bien sûr, cette date est symbolique, mais elle met en évidence ce que tous les chiffres confirment sans jamais vraiment se traduire comme une urgence de cohésion sociale. Pourtant, le principe d'égalité salariale entre les femmes et les hommes est inscrit dans le Code du travail depuis 1972 et a été renforcé d'une dizaine de lois. Malgré tout, les améliorations sont encore lentes à venir. Selon l'analyse de l'association féministe Les Glorieuses, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes s'est réduit de près d'un point sur les 10 dernières années. À ce rythme-là, dit-elle, on a atteindra l'égalité en 2167. Le phénomène est d'autant plus visible dans les professions très féminisées, comme les métiers du soin ou du nettoyage, qui restent mal valorisés, quand les autres se heurtent au plafond de verre et difficile accès aux hautes fonctions. N'oublions pas non plus que près de 30% des femmes en emploi travaillent à temps partiel et que presque 2/3 des smicards sont des smicardes. Parce que l'écart salarial se creuse encore plus à l'arrivée du premier enfant, les Glorieuses proposent d'instaurer un congé parental équivalent pour les deux parents afin de lutter contre les stéréotypes et favoriser une réelle égalité professionnelle. Dans les pays qui l'ont adopté, comme la Suède ou l'Islande, les écarts de salaire ne sont plus un sujet, assure-t-elle. Elles espèrent également que la transparence salariale qui s'imposera en France dès l'an prochain, avec la transposition d'une directive européenne, permettra de faire une différence.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Couvert de Midi-Pyrénées jusqu'au Hauts-de-France, en passant par le Val-de-Loire, partout ailleurs. Alternance de nuages et d'éclaircies. Quant aux températures, elles seront comprises entre 9 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.